Vous écoutez France Culture.
Quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'histoire de l'éducation, pour laquelle nous vous remercions d'ores et déjà, vous les auditeurs, car vos réactions nombreuses sur notre site, sur Facebook ou sur Twitter, aussi bien pour l'émission de lundi avec Antoine Pro qu'au documentaire de mardi sur Célestin Freinet ou encore à l'émission d'hier sur la radio scolaire, eh bien ces réactions nous ont ravis. Pour ce quatrième volet, nous allons nous intéresser, alors qu'on a remis hier à Paris le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes à la jeune Malala Yousafzai qui se bat dans son pays, le Pakistan, pour l'éducation des filles, eh bien nous allons nous intéresser à l'histoire de l'éducation des filles depuis le XVIIe siècle. Nous allons parler des discours, surtout des discours, bien sûr, des hommes, souvent, sur l'institution et l'instruction des filles et des pratiques également. Où enseignait-on aux filles et quel enseignement leur donnait-on? Professait-on les mêmes matières aux garçons et aux filles dans le primaire, puis aux jeunes hommes et aux jeunes filles dans le secondaire? Quelle finalité prévoyait-on à cette instruction féminine? L'école publique tranchait-elle et trancha-t-elle à partir de la fin du XIXe siècle avec les écoles confessionnelles? Voici quelques-unes des questions que nous poserons avec Séverine Yattard, qui a préparé cette semaine avec nous, à nos quatre invités de ce matin, à Rebecca Rogers, elle sera au téléphone avec nous, elle est historienne, spécialiste de l'histoire de l'éducation féminine en France au XIXe siècle, historienne de l'institution de la Légion d'honneur, également co-auteur chez Textuel avec Françoise Thébault de la Fabrique des filles, nous serons également avec Nicole Mosconi, professeure en sciences de l'éducation à Paris-Dix-Nanterre, auteur entre autres de Femmes et Savoir, c'est publié à l'Armatan. Claude Lelièvre sera avec nous, il est historien de l'éducation, auteur avec Françoise Lelièvre de l'histoire de la scolarisation des filles. Et puis, nous serons également avec Martine Sonnet, historienne des femmes à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine, qui avait consacré, il y a quelques années de cela, sa thèse à l'éducation des filles au temps des Lumières. Commençons par vous, peut-être, Martine Sonnet, bonjour. Puisque, bonjour. Chronologiquement, vous êtes peut-être la plus avancée ou reculée dans le temps par rapport à cette question de l'institution de l'éducation des filles. Alors, il faut, selon vous, remonter, si on s'intéresse à ce qui se passe à l'époque moderne, à la contre-réforme, c'est cela?
Oui, tout à fait. En fait, l'effort massif en direction de l'éducation des filles est une conséquence de l'effort d'instruction fait par les réformés, donc par les protestants, qui vont se battre sur le terrain de l'instruction des fidèles en multipliant des écoles et en permettant l'accès à la lecture de la Bible. Et les autorités catholiques vont très vite réagir et employer les mêmes moyens après le Concile de Trente en particulier. Donc à partir du milieu du XVIe siècle, on prend conscience que l'instruction des enfants est le meilleur moyen de s'assurer que la doctrine va rester la bonne doctrine catholique et romaine. Et pour cela, on va créer, multiplier des petites écoles.
C'est pour ça qu'au XVIIe siècle, on voit naître 57 institutions, expliquez-vous dans votre travail,
oui, alors,
à Paris en particulier. Voilà. 57 institutions, donc alors que le XVIIIe, dont on peut imaginer, puisque c'est le temps des Lumières, qu'il est le plus florissant, justement, dans cette tension vers l'égalité entre garçons et filles, le XVIIIe n'en verra que 7, c'est ça,
oui,
pendant la même période.
Alors, sur Paris. Et là, on touche tout de suite alors un problème qui est le décalage des pratiques et des discours en matière d'éducation. C'est vrai de façon générale, et peut-être que c'est encore plus vrai pour les filles, puisqu'effectivement, le XVIIIe siècle, qui s'attache tellement à l'éducation, qui vraiment en fait un de ses sujets de préoccupation premiers, à partir du moment où l'esprit des Lumières souffle, agit très peu ou agit ponctuellement, individuellement et non pas collectivement. Le souci de toucher le peuple dans son entier est beaucoup plus présent dans l'effort qui suit la réforme catholique, effectivement. À ce moment-là, on veut vraiment toucher tout le monde.
Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'évidemment, pour ceux qui vont de temps en temps au cinéma, eh bien, ils ont en tête une institution, celle de Madame de Maintenon, Saint-Cyr, parce que le film de Patricia Mazui avec Isabelle Huppert a été extrêmement fort dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui l'ont vu en tous les cas. Ça ressemble à quoi ces institutions pour jeunes filles au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle, Martine Sonnet à Paris?
Alors, Saint-Cyr, c'est tout de même un cas très particulier, puisque le public visé, ce sont des jeunes filles nobles, nobles mais ruinées. Donc elles ont besoin d'une éducation assez particulière qui leur permette d'épouser des nobles, évidemment, dans leur milieu, et puis de savoir régner sur des biens ruraux, le plus souvent, où elles devront tout faire. Donc il y a un souci d'une éducation très complète, qui ne ressemble pas du tout à celle qui est le plus communément transmise, par exemple, dans des couvents qui peuvent être soit des couvents très engagés dans la pédagogie, comme ceux des Ursulines, la congrégation Notre-Dame aussi.
Ça commence en 1610 sur
les Ursulines. Oui, tout ça sur Paris, les Ursulines arrivent au début du XVIIe siècle, où on a un souci d'essayer d'imiter un petit peu le modèle des collèges de garçons. Mais on en reste encore très très loin. Donc on a une variété d'établissements. On a des abbayes prestigieuses avec une éducation mondaine très très poussée, l'abbaye au Bois ou Panthémon à Paris. Et puis des établissements comme ceux des Ursulines, la congrégation Notre-Dame, qui ont avant tout le souci de la pédagogie et dont les religieuses d'ailleurs prononcent un quatrième vœu, qui est de se consacrer à l'éducation des filles. Donc là, il y a un véritable engagement et l'instauration d'un cursus qui pourrait un petit peu se rapprocher de celui des collèges. Seulement, comme les parents restent tout à fait maîtres du jeu, les filles n'y restent souvent pas assez longtemps pour recevoir un enseignement un peu complet.
Et puis, il y a aussi une distinction sociale. Ça n'est pas la même chose d'être dans une école de charité ou d'être à Saint-Cyr avec
Madame de Maintenon. Alors là, comme je partais de Saint-Cyr, effectivement, j'étais partie du côté des couvents. Mais il est bien évident que le plus grand nombre des écolières sont dans des petites écoles, soit gratuites, tenues par les paroisses, soit payantes, dépendant de la cathédrale Notre-Dame. Et puis également des écoles gratuites dans des communautés religieuses, dans des couvents, certains ayant à la fois un pensionnat et une école gratuite.
Séverine, en tous les cas, Martine Sonnet, bah vous faites une sorte de comptabilité, parce qu'on a un peu du mal à se représenter le nombre d'enfants, le nombre de filles, le nombre d'écoles. Et vous en arrivez, alors plutôt au XVIIIe siècle, hein, d'ailleurs, on fait un saut comme ça dans l'histoire. Vous discernez 11 000 places, c'est ça, à peu près, voilà, pour les filles, compte tenu qu'il y aurait environ entre 50 000 et 65 000 filles de 7 à 14 ans, enfin susceptibles d'aller à l'école,
à Paris.
Oui, voilà. Oui, on a la chance que pour les années 1760, 70-80, on puisse vraiment ratisser les rues de Paris pour identifier toutes les sortes d'écoles accessibles aux filles. Donc, qu'elles soient les petites écoles payantes externes, qu'elles soient dans les couvents, qu'elles soient dans les paroisses. Et quand on additionne toutes les places, effectivement, on arrive à 11 000 places. Ce qui fait, à mon avis, une place pour 3 ou 4 candidates potentielles, étant donné qu'un certain nombre n'y vont pas parce qu'elles sont instruites chez elles. Bon, une petite frange, évidemment, des milieux éclairés. Et puis qu'une autre frange, à l'autre extrémité de l'échelle sociale, n'y va pas parce que la famille a des préoccupations beaucoup plus vitales et urgentes à résoudre.
Alors, Nicole Mosconi, vous êtes sociologue, vous avez travaillé, historienne de l'éducation, travaillé sur ces questions de l'éducation depuis longtemps. Vous avez fait un livre qui s'intitule « Femmes et savoirs, la société, l'école et la division sexuelle des savoirs ». On n'a pas encore cité, il faut le citer tout de même, le nom de Françoise Mayer, qui a été aussi une pionnière, peut-être la pionnière d'ailleurs, dans ce domaine-là, puisque ses premiers livres remontent aux années 70, donc sur cette question de l'éducation des filles. Et ce que disait Martine Sonnet résonne chez vous, d'une certaine façon, cette tension entre les discours et la pratique, c'est quelque chose que vous avez toujours analysé dans ce domaine de l'éducation des filles.
Nicole Mosconi. Moi, je me suis intéressée plutôt au 19e siècle et même plus précisément à la Troisième République, en fait. Je ne suis pas historienne, je précise. Je suis en sciences de l'éducation, mais je ne revendique pas. Je n'ai pas travaillé sur des archives, par exemple. Simplement, j'ai essayé, je suis plutôt de formation philosophique, et j'ai essayé de réfléchir à ce que ça représentait finalement. Alors, la première chose que je dirais, c'est au XIXe siècle, un retard fort fort dans l'éducation des filles par rapport à celle des garçons. Et je crois voulu par les milieux intellectuels, politiques, etc. Je pense qu'on discute de l'éducation des filles un peu comme on discute de l'éducation du peuple. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire l'accès au savoir de ces milieux qui doivent être par ailleurs des milieux qui acceptent la domination.
Ouais. Et avant même de se poser la question de ce qu'il faut mettre en œuvre, on a peur des conséquences de ce qu'on va mettre en œuvre.
Oui, je pense que c'est très très fort et que même encore sous la Troisième République, quand on discute, alors là j'ai étudié la discussion sur les programmes de l'enseignement secondaire de jeunes filles, alors là, voulu par les Républicains. Et il y a des Républicains, comme par exemple Jules Simon, quand on se pose la question de savoir est-ce qu'on va leur donner de la philosophie, il dit « mais vous allez les rendre ingouvernables ». C'est-à-dire qu'il y a toujours cette préoccupation que les filles dans la famille soient soumises à leur mari. Et ça, la conception du mariage avec l'inégalité des sexes est très forte.
C'est vrai. Mais déjà, ce que vous remarquez, Nicole Mosconi, c'est que, en fait, l'organisation de l'éducation des filles, l'éducation scolaire des filles, se fait à l'inverse de celle des garçons, dans le sens où on commence par les universités au Moyen-Âge, les collèges, le primaire pour les garçons, donc tout au long du XVIIe et XVIIIe siècle, et que les filles, c'est l'inverse. On va commencer par les écoles primaires, ensuite, éventuellement, les collèges, ensuite, un enseignement soi-disant calqué sur celui des garçons, mais qui en fait ne l'est pas, puisque c'est plutôt un enseignement plus court et au niveau de l'école élémentaire. Et ça, déjà, ça va générer un retard qu'il va falloir rattraper et qui
pendant longtemps. En lisant justement les historiens depuis l'époque classique, je me suis aperçue de cette. Et je crois que c'était quelque chose qui avait déjà été remarqué par Snyders. C'est-à-dire cette façon différente.
Qui est Snyders ? Excusez-nous, Snyders.
C'était un philosophe de l'éducation à Paris 5. Ça a été mon maître.
Ah, voilà.
C'est pour ça que je lui rends hommage.
Il a fait une histoire, au fond, de l'éducation au XVIIIe siècle. Mm-hmm. Mais à partir des textes, uniquement à partir des textes.
À partir des textes, oui. Un peu comme moi, d'ailleurs, il faut bien dire. Hein. Mm-hmm. Bon. Mais je crois que ce qui est très important, c'est effectivement, à la fin du XIXe siècle, dans le développement du mouvement féministe, le combat pour l'éducation des filles va être très fort, mais surtout pour l'accès à l'université, qui jusque-là, effectivement, était interdit aux filles.
Alors, Rebecca Rogers, vous êtes avec nous au téléphone depuis Strasbourg, je crois. Vous êtes
ici.
Comment ?
Non, je suis à Paris.
Ah bon, pardon. Je sais que vous ne pouvez pas vous déplacer. Enchanté de vous retrouver, puisque vous êtes déjà venu dans l'émission La Fabrique de l'Histoire, bien entendu. Vous êtes donc historienne, en particulier de cette institution très particulière, qui est l'institution de la Légion d'honneur, l'institution de filles de la Légion d'honneur. Trois collèges en particulier qui ont été institués donc au XIXe siècle. Et puis également avec François Stébaud, je le disais, de ce livre qui s'appelle La Fabrique des filles, l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule, paru chez Textuel. Alors, ce 19e siècle, parce qu'on a fait un peu le saut là momentanément avec Nicole Mosconi à la fin du 19e siècle, ce 19e siècle, que change-t-il par rapport à ce que nous disait au tout début de cette discussion Martine Sonnet par rapport à ce qui avait été mis en place au 17e, 18e? Quand on lit Martine Sonnet, elle est très étonnée. Vous êtes très étonnée, Martine Sonnet, de dire que tout en fait, entre, mettons, le début du 17e et la fin du 19e, vous ne voyez pas beaucoup de différence, vous, par rapport à cette question-là.
L'inertie
une grande inertie
d'éducation des filles jusqu'à l'accès à un niveau d'enseignement secondaire à la fin du 19e.
Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui se passe entre la période de Martine Sonnet et la vôtre, Rebecca Rogers, c'est la Révolution française. Donc on se dit, voilà quelque chose qui a bouleversé considérablement la société française dans tous les domaines, et ça n'aurait pas touché l'éducation des filles, Rebecca Rogers.
Bah, quand même, pendant la Révolution française, il y a un discours sur le besoin d'améliorer cette éducation, mais c'est vrai qu'on est là.
Condorcet en particulier.
Pendant la Révolution, sur le discours, et c'est pour ça que je pense que la Légion d'honneur est vraiment une institution qui apporte un changement, même si ce n'est pas du tout la volonté de Napoléon Bonaparte quand il le crée, hein, parce que il insiste sur le fait élevez-nous des croyantes et non des raisonneuses, il dit, mais c'est là où la personnalité de la première surintendante, Madame Campan, va jouer un grand rôle en proposant une instruction qui est au fond beaucoup plus poussée que ce que souhaite l'empereur, et en mettant en place un cursus d'études rigoureux pour, c'est vrai, une petite frange de la population, c'est-à-dire les filles de père ou d'oncle ou de grand-père qui ont obtenu la Légion d'honneur. Donc cette institution qui va devenir un modèle pendant tout le 19e siècle pour les classes moyennes, je dirais, avec l'idée qu'on peut proposer une instruction un peu sérieuse qui n'est pas encore sous le modèle de ce qu'on propose dans les collèges et les lycées de garçons, mais qui donne une tête bien faite.
Mais néanmoins, une institution qui reste encore jusque 1881, si je vous ai bien lu, sous la houlette religieuse. Elle ne devient laïque qu'à partir de 1881, cette institution de la Légion d'honneur. Je me suis trompé ou pas ?
Non, c'est, en fait, Napoléon crée une première institution à Écouen sous Madame Campan, qui est dirigée par des laïcs. Puis on va ouvrir l'institution à Saint-Denis, hein, qui existe toujours. Ces deux institutions sont tenues par des laïcs, et puis on va créer les maisons d'orphelines, qui sont tenues par des religieuses. Donc c'est une institution qui a cette, il y en a cinq pendant le 19e siècle, cinq au départ et puis trois après la chute de Napoléon, dont deux qui sont dirigés par une congrégation religieuse. Et ça, c'est l'un des résultats de mon travail de thèse, maintenant un peu lointain, c'est de montrer qu'au fond, c'est la congrégation religieuse qui va changer le plus au cours du 19e siècle, alors que les laïcs s'installent un peu dans une routine en forme de bonne mère et d'épouse, alors que la congrégation est plus consciente de l'évolution du travail féminin en particulier et va changer au milieu du 19e siècle le programme d'études avec l'idée qu'une partie de leur population va s'orienter vers des carrières plutôt dans la broderie, dans les industries de luxe, et puis l'autre partie va s'orienter vers ce secteur tertiaire qui est en croissance, travailler au poste, travailler dans l'enseignement, etc.
Voilà tout de même qui nous prend un peu à rebrousse-poil, Claude Lelièvre, parce qu'on explique que la Révolution française ne change pas grand-chose, alors qu'on pense qu'elle a tout changé dans tous les domaines, ou presque, dans ce domaine de l'éducation des filles. Et puis, on explique que la République, eh bien, tout compte fait, ou disons les idées républicaines sont quelquefois, ou laïques, sont quelquefois moins en avance que dans certaines congrégations, comme vient de nous le dire Rebecca Rogers, religieuses, où on prend mieux en compte une demande plus moderne, entre guillemets, vis-à-vis de cette éducation des filles.
Claude Lelièvre. Oui, il faut bien distinguer d'abord les pratiques et les discours, mais les discours, ça ne veut pas dire qu'ils soient volontairement illusoires ou contraires à des pratiques futures. Les révolutionnaires n'ont absolument pas eu le temps de construire et de pratiquer des écoles.
Et Condorcet disait bien...
Le moment révolutionnaire dure quelques années, voilà. Et dans un désordre remarquable. Comment voulez-vous qu'il pratique donc, il y a eu d'ailleurs quelques réalisations. Alors évidemment, quand tout à coup...
Il y a des tensions chez les révolutionnaires. Il y a des tensions chez les révolutionnaires, entre Mirabeau et Rousseau d'un côté et de l'autre côté Condorcet, c'est pas tout à fait la même conception.
Talleyrand est quelqu'un qui justifie totalement la différence entre une école, disons, de type domestique et une école de type public. Il est complètement contraire, et pour des raisons politiques. Ce qui est remarquable, à mon avis, au niveau de la Révolution, c'est que les questions sont posées en termes directement politiques. Alors qu'auparavant, ils ne sont pas posés de cette façon-là, ou alors de façon intermédiaire ou médiatisée. Alors je pense que ça, c'est très important, parce que nous sommes toujours, de ce point de vue-là, dans ce trip de poser le problème de l'éducation des femmes en termes politiques et maintenant en termes de formation professionnelle, ce qui est tout à fait nouveau.
Martine Sonnet, à propos de ce 18e
siècle. Alors je voudrais
siècle.
Juste rapporter les témoignages des hommes qui vont dans les communautés faire l'inventaire au moment de la Révolution pour vendre les biens des communautés qui ferment et qui découvrent absolument ce qui se passe dans les établissements d'enseignement féminin et qui sont émerveillés en fait. Et notamment la communauté Sainte-Agnès dans le quartier des Halles où il y a 400-500 filles qui apprennent à lire, parfois à écrire, et puis des travaux manuels. Et les inspecteurs disent, bah, vraiment, si le patriotisme commence à être connu en France, les sœurs de Sainte-Agnès le pratiquent depuis 100 ans. Donc, sur le terrain, il y a ce constat que finalement, ce qu'on croit inventer était en place. Enfin, parce qu'on n'a rien de mieux à proposer. On remplace l'être suprême par le culte ancien, mais autrement, ça va toujours être des travaux d'aiguille, majoritairement.
Alors ça, venons-y tout de même, parce qu'on n'a pas encore parlé de ce qu'on apprend dans ces institutions, que ça soit au XVIIe, XVIIIe ou XIXe siècle. On y apprend quoi? Et en quoi la pratique donc, de cette éducation des filles est-elle différente de celle des garçons à la même époque, Martine Sonnet?
Alors, d'abord voir que tant qu'on n'a pas admis l'égalité des capacités féminines et masculines à apprendre des choses, on va avoir des programmes un peu différents, forcément.
C'est-à-dire, bon, en gros, jusqu'au milieu du XXe siècle,
c'est ce que vous voulez. Oui, voilà.
C'est à peu près ça. On est
d'accord.
Peut-être
qu'au XXIe encore.
Voilà. Voilà. Je peux faire une observation. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Il y a des fortes différences, mais ce n'est pas automatiquement parce qu'on pense que les filles ne peuvent pas apprendre de la même façon que les garçons. Par exemple, il est tout à fait significatif que Jules Ferry, dans son discours sur à la Salmonière, sur justement l'égalité devant l'éducation, dit qu'il est fort possible et même probable que les filles peuvent apprendre de la même façon que les garçons, mais comme le disait Nicole Mosconi, le problème pour Jules Ferry, c'est... quelle est la finalité de l'éducation des filles?
Autrement dit,
il ne met pas en cause du tout
leur capacité.
Leur capacité. Et ça, je pense que c'est très important.
Mais c'est la dangerosité.
C'est pourquoi doivent-elles être éduquées? Et l'idée qu'elles ont des rôles, il y a des rôles complémentaires entre filles et garçons, est centrale dans cette affaire.
Martine Sonnet, Nicole Mosconi,
évidemment,
avec vous au téléphone, Rebecca Rogers.
Même dès le XVIIe siècle, quelqu'un comme Poulain de la Barre, le philosophe Poulain de la Barre, son traité de l'éducation, de l'égalité des sexes, montre à quel point un esprit éclairé peut affirmer très tôt l'égalité et la nécessité de formation qui soient les mêmes. Mais ceci dit, dans les programmes éducatifs, même s'il y a un socle commun d'instruction de rudiments, lire, écrire, compter, et puis, on va toujours ajouter pour les filles, donc ces travaux d'aiguille, évidemment.
Et souvent, on dit pour les filles, on dit des éléments de langue française, des éléments d'histoire, des éléments de géographie.
Des rudiments, voilà. Avec les filles, on effleure toujours les savoirs. Ouais. Hein, et on en effleure moins qu'avec les garçons, en particulier dans les petites écoles. Et puis, on considère toujours que dès qu'elles en savent assez, il faut arrêter. Il n'y a jamais d'approfondissement, il n'y a jamais d'éveil de la curiosité. On est toujours, ça suffit comme ça, on arrête tout de suite, sinon c'est trop.
Nicole Mosconi.
Oui, je pense que c'est l'idée vraiment du danger du savoir à un certain niveau, parce qu'à ce moment-là, on accepte
plus
la situation.
Voilà, on craint d'en faire des raisonneuses.
Des raisonneuses, oui, ça c'est très important. Je voudrais dire, c'est que sur la Troisième République, c'est vrai, je suis d'accord avec
Claude Lelièvre.
Claude Lelièvre, mais sur Jules Ferry, mais... Et je pense en effet, Henri Marion par exemple, c'est la même chose, il croit bien que les filles sont capables, etc. Mais le problème quand même toujours, c'est que leur influence centrale, c'est Rousseau.
Et Rousseau, rappelons la recherche des vérités abstraites et spéculatives, des principes, des axiomes de la science. Tout ce qui tend à généraliser les idées n'est point du ressort des femmes. Leurs études doivent se rapporter toutes à la pratique.
Voilà, c'est du ressort, c'est-à-dire que ce n'est pas leur domaine. Et effectivement, les gens disent, nous ne voulons pas faire des érudites, nous ne voulons pas faire des ingénieurs, nous ne voulons pas faire des mathématiciennes. C'est dit explicitement.
Et justement, Rebecca Rogers, est-ce qu'on pourrait rappeler aussi les lois qui génèrent justement cette division des savoirs, hein, comme vous le dites, Nicole Mosconi, en ce qui concerne les écoles normales, hein, tout simplement, école normale pour garçons, école normale pour filles, et puis enfin, donc pour former les instituteurs, et puis ensuite pour former les professeurs du secondaire, puisque l'école normale, normale supérieure pour les garçons Rudum, c'est début du 19e siècle, alors que l'école de Sèvres va être fondée à la fin du 19e siècle. Il y a quand même une énorme différence.
Rebecca Rogers.
Voilà. Voilà, donc on voit un décalage dans toutes ces lois scolaires pour prendre en compte les filles, hein, la création des écoles, des collèges et des lycées pour garçons en 1802, les collèges et lycées de jeunes filles en 1880, les écoles normales pour garçons en 1833, il faut attendre 1879 pour les écoles normales féminines. Donc il y a ce décalage et c'est vrai qu'en gros c'est la Troisième République qui impulse un grand nombre de lois pour que les filles aient l'équivalent des garçons. Mais c'est vrai qu'en même temps, dans cette équivalence, il y a des différences selon le sexe. Beaucoup moins marquées au niveau de l'élémentaire. Donc pour la vaste majorité, il y a des garçons et des filles où les programmes sont les mêmes, à part pour tout ce qui est travaux manuels, où c'est vrai que les travaux d'aiguille restent très importants.
Et gymnastique, oui. Puisque la gymnastique, c'est pour les garçons, pas pour les filles.
Oui, voilà, et également, où on va plus, ça reste facultatif plus longtemps chez les filles. Mais la grosse différence, c'est vrai que c'est dans les milieux bourgeois, où peut-être l'enjeu est plus important, où les collèges et les lycées de jeunes filles ne proposent pas un cursus qui mène au baccalauréat, qui est quand même le diplôme qui couronne les études secondaires et où on va pas proposer non plus ce qui est à la base de la formation du jeune homme bourgeois, c'est-à-dire les humanités classiques. Donc, malgré des lois qui rattrapent du retard, on reste dans une différence qui est une différence pensée en termes des rôles sociaux, parce qu'après tout, on imagine qu'on forme des jeunes filles de la bourgeoisie en particulier pour devenir de bonnes mères et d'épouses.
Et aussi, allez-y, Rebecca Rogers, encore un petit mot.
Voilà, je voulais aussi dire que si on peut voir de grandes inertie hein, dans cette vision de la femme qui doit être formée pour devenir une bonne mère et épouse. L'une des choses que moi j'ai vraiment voulu mettre en avant dans mes travaux, comme Françoise Mayer avant moi, c'est le rôle des femmes quand même dans la construction d'un système, d'un réseau scolaire. Et c'est là où je pense, quand on regarde au niveau des institutions, au niveau des individus qui ont porté ces institutions, on voit de vrais décalages entre ce discours et puis au fond, ces personnes comme une de mes préférées, c'est Joséphine Bachelery au milieu du 19e siècle, qui a un pensionnat pour jeunes filles bourgeoises à Paris, qui sur le papier semble tout à fait tout ce qu'il y a de plus
canonique,
classique. Non, elle est laïque. Parce
non, 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 mais canonique au sens du canon.
Saint-Simonienne. Et au moment de la Révolution de 48, sa parole se libère. Elle demande au ministre de l'Instruction publique, Hippolyte Carnot, de créer une école normale supérieure pour les filles, parce que quand même, il faudrait que ces filles puissent avoir des professions par la suite. Donc je pense que c'est beaucoup par la profession, l'idée de que les filles doivent travailler, qu'on voit des femmes qui bouleversent à leur échelle la vision de l'éducation féminine.
Et parmi donc ce qu'on apprend dans ces milieux bourgeois, en particulier à ces filles, on peut leur apprendre, mais ça peut être au sein de la famille, la musique. Un exemple, Pauline Viardot, 1821-1910, soprane et compositrice française qui apprend le piano aux côtés de Franz Liszt, donc dans la première moitié du 19e siècle, qui chante de l'opéra, qui a énormément de succès, qui montera à la fin du 19e siècle, une fois qu'elle aura arrêté la scène, un enseignement de chant entièrement consacré à des élèves féminines. On écoute la sonatine en la mineure, milieu du 19e siècle. Thank you. La sonatine en la mineure de Pauline Viardot, compositrice du 19e siècle, interprétée par Barbara Annette Vogel et Ayako Tsuruta. Alors, ce qui est étonnant, Martine Sonnet, c'est la façon dont on pense, on l'a dit, les penseurs, Rousseau, Talleyrand, Mirabeau ou d'autres, de cette éducation des filles, et puis la façon dont, au bout du compte, la pratique va un peu gauchir ce qui avait été pensé par ces penseurs. C'est-à-dire que le simple fait de commencer une éducation, même avec quelques rudiments de l'écriture, de la comptabilité et de la lecture, va forcément avoir des conséquences qui ne sont pas celles qui ont été imaginées par les penseurs en question.
Oui, et par les penseurs qui ont pensé encore avant ceux de la Révolution, puisque... au départ, on apprend à lire pour lire le catéchisme, pour apprendre mieux le catéchisme, donc pour ne pas répéter bêtement des choses qu'on déforme. Et cet apprentissage de la lecture, très très rudimentaire, effectivement, permet tout de même une alphabétisation et la multiplication des écoles de charité, donc, qui ont pour mission vraiment de gagner le maximum d'enfants, se traduit dans les taux d'alphabétisation féminine qui font un formidable rattrapage entre le 17e et le 18e siècle.
Très rapide, en fait, d'une
certaine manière. Oui, très rapide, enfin sur un siècle, entre Louis XIV et Louis XVI, à Paris, les femmes de milieu salarié vont gagner plus de 20 points, 20-25 points, quand les hommes n'en gagnent que 5. Donc il y a vraiment un mouvement très fort.
Claude Lelièvre.
On peut prendre un autre exemple qui est tout à fait typique. Lorsque les républicains mettent en place le secondaire féminin...
Donc 1880, la loi 1880, Camille Issé.
Les filles n'ont pas le droit au bac, elles n'ont pas le droit au compte à rebours, hein, qui est l'élite.
Le compte à rebours.
C'est 6e, 5e, 3e, 3e, seconde. Ouais. Autrement dit, de l'école vue d'en haut et par le haut.
D'accord.
Elles viennent d'en bas, elles, c'est année après année. On dit première année, deuxième année, troisième année, quatrième année. Et ça, c'est typique de notre école, du combat entre deux types d'écoles. Or, donc, pour les filles, ben, c'est comme pour dans les cours complémentaires, elles ont des cours complémentaires en plus. Mais effectivement, elles vont se l'approprier. Elles n'ont pas droit au bac. Parce que si elles ont bac, elles peuvent aller à l'université. Mmh. Et si elles sont à l'université, ça veut dire qu'elles veulent avoir des diplômes pour professionnels ou pour être cadre. Donc, mais il y a le ver dans le fruit. D'abord parce qu'il faut des professeurs féminins.
Eh oui.
À partir du moment où il faut des professeurs féminins, il faut former des cadres. Donc il va falloir que cette école forme des cadres. Et il y a déjà une contradiction à l'intérieur de l'école. Et du coup, aussi, elles vont s'en emparer parce qu'elles vont petit à petit se mettre à faire aussi du latin, ce qui leur avait été quasiment interdit. Mm-hmm. Or, le latin était décisif. Donc, finalement, ce sera reconnu par l'institution en 1924, où il y aura les deux formules. Et l'une des formules, d'ailleurs, finalement, triomphant. Et une nouvelle fois, d'ailleurs, quand on est du côté de l'élite et qu'on est du côté de l'égalité avec l'élite, alors on est dans le compte à rebours. C'est une grande réflexion pour nous, parce que le problème est de savoir si l'école se fait par haut et d'en haut ou d'en bas et par le bas.
Nicole Mosconi.
Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que une autre chose que la Troisième République a faite qui était importante, c'est l'école primaire supérieure, c'est-à-dire ses possibilités de continuer au-delà du certificat d'études. Et les filles se sont emparées très fortement de cela pour obtenir justement des postes qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc, effectivement, par Rebecca Rogers, il y a eu là un usage de cet enseignement et des enseignantes qui se sont battues vraiment pour développer ces possibilités pour les filles.
Par le bas, d'une certaine
c'est
façon.
C'est ça, oui.
C'est vrai.
Mais si on revient par le haut, puisque c'est vrai que la formation des enseignantes, puisqu'on est dans le cadre évidemment d'une école non mixte, hein, surtout, donc il faut des femmes pour former des futures enseignantes.
Et puis pour les bonnes mœurs.
Et pour les bonnes mœurs,
garantir des bonnes mœurs pour les filles de bourgeois qui viendront bourgeoises dans la lutte contre les kourganistes qui sont, elles, normalement, offrent toutes garanties.
Il n'empêche qu'on maintient, bien sûr, cette division du savoir, puisque l'école normale de la rue Dune n'a rien à voir avec celle de l'école de Sèvres, autant dans les contenus pédagogiques que dans la fonction de la formation. Ça, on le sait très bien. Elles sont censées devenir de bonnes pédagogues, avant tout, alors que très vite, à la rue d'Ulm, on va former les penseurs de demain, le savoir désintéressé. C'est toujours ça, la différenciation,
oui,
justement,
oui.
Entre
ça, filles et garçons. C'est toute la question du classement, d'abord, de l'école normale supérieure de Sèvres, qui a longtemps été rattachée à l'enseignement secondaire, au lieu d'être rattachée à l'enseignement supérieur, comme Ulm. Et d'autre part, le fait que... Enfin, Marie Curie s'est déjà battue pour essayer d'obtenir que les filles scientifiques aient le droit de faire de la recherche. Mais c'est vrai que pendant toute la Troisième République, l'idée, c'était qu'essentiellement, elles étaient destinées à l'enseignement secondaire et pas du tout à l'enseignement
supérieur.
Oui,
c'est quand même très étonnant parce qu'il y a quand même quelques années entre la déclaration de Camille Cé, donc l'inventeur justement de cet enseignement secondaire de filles en 1888, quand il dit « il ne s'agit pas de préparer les jeunes filles à être savantes, leur mission dans le monde n'est pas de faire de nouveaux progrès, faire de nouveaux progrès aux mathématiques et à la chimie ». Et le prix Nobel de Marie Curie, c'est quelques années simplement. Donc on est très étonné de cette proximité.
Il y a toujours des exceptions qui confirment la règle.
Mais justement, par rapport à cela, je voudrais aussi signaler
au XVIIIe siècle,
l'importance du Front populaire, parce qu'à ce moment-là, on a nommé Eugénie Coton comme directrice de l'École normale de Sèvres, et elle, qui était une scientifique, s'est battue pour justement obtenir que les filles puissent faire de la recherche. Et elle a été limogée par... en 40.
Rebecca Rogers, on y apprend aussi des vertus dans ces écoles, depuis d'ailleurs le XVIIe ou le XVIIIe siècle, des vertus qui seraient différentes pour les filles et pour les garçons. L'impétuosité, le courage d'un côté, et de l'autre côté, la modestie, la patience, qui seraient des vertus typiquement féminines. Il y a ça tout de même aussi dans le fond de ce qu'on apprend dans ces écoles, en particulier au XVIIIe et XIXe siècle.
Oui, ça c'est clair qu'on voit des modèles d'êtres humains dans la société qui sont très fortement sexués, si on veut. C'est-à-dire les jeunes filles sont douces, patientes, obéissantes, et les messages dans les manuels, dans les cours de morale, dans la littérature de jeunesse, renforce souvent ça. Mais je pense aussi, quand on regarde d'un peu plus près, qu'on voit des surprises. Ben, d'une part, il y a beaucoup de femmes qui vivent de leur plume en produisant ces ouvrages qui nous semblent extrêmement insipides aujourd'hui, mais où souvent on voit des jeunes filles qui assument des rôles qui sont peut-être moins... docile, passive, acceptant ce que le sort vous réserve. Mmh. Et notamment, j'avais été surpris en lisant des ouvrages de morale du début du 19e siècle. On retrouve souvent des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont perdu leurs parents,
ah oui,
qui ont
perdu très
leur mère, et qui sont du coup obligés d'être beaucoup plus entreprenantes qu'on pourrait imaginer. Donc je pense qu'il y a toujours cette tension entre, a priori, oui, il faut être douce, passive, obéissante, et puis en même temps, cette éducation vous offre quand même les moyens de réagir contre le sort qui peut être impitoyable.
Claude Lelièvre.
Oui, moi je pense qu'il y a une longue marge des filles, très très longue, du bas vers le haut, et où les politiques scolaires ont été détournées et reprises dans ce long mouvement. Ce qui me frappe par exemple, c'est que entre Camille Cé et 1924, il n'y a pas seulement la Grande Guerre et normalement ce qu'on dit un certain féminisme, une libération de la femme, puisque le mouvement
en cause
commence largement avant la guerre 14-18. Donc c'est vraiment une longue marche. Et une longue marche qui, il faut quand même bien le dire, a atteint ensuite l'université massivement et même tellement l'université que regardons les chiffres actuels quand même. Parce qu'il faut voir à quel point... La scolarisation des filles a changé. Si on comparait avec celle des enfants d'ouvriers, ce serait sans commune mesure. Les évolutions sont très importantes. Regardons par exemple le taux de jeunes filles tel qu'il est passé à l'université. En 68, il n'y avait que 30% des étudiants qui étaient des étudiantes en droit. Maintenant, on en est à 63%. Plus que doublé en 40 ans. En médecine, on est passé de 30% à 60%, de 68 à actuellement. En lettres, on est resté relativement stable, on a même encore augmenté, 65% à 70%. Le seul cas où il y a stabilité, c'est en sciences, 33%, 34%. Mais si on accepte, ce qui est quand même remarquable, le taux d'étudiantes en sciences, les filles qui étaient largement en dessous des garçons même encore au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, à la fin du XIXe, sont maintenant, au niveau de l'université, massivement présentes. Imaginons qu'on dise cela pour les enfants d'ouvriers, que les enfants d'ouvriers n'étaient pratiquement pas à l'université, et que maintenant, ils représentent 60% des étudiants. On dirait, vraiment, c'est une démocratisation extraordinaire. Donc, de façon un peu provocatrice, je dis... Quel succès des filles !
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elles sont maintenant à l'avantage.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, après, il faudra peut-être regarder dans le détail de ce que vous racontez, Claude Lelièvre. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc pour que ce système dont Martine Sonnet nous a dit du XVIIe siècle à la fin du XIXe, ça n'a quasiment pas changé. Vous dites que ça poursuit même jusqu'au milieu, Nicole Mosconi, du XXe siècle. Oui, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça change à ce point ? Peut-être pas au point... exagéré que semble dire Claude Lelièvre, mais...
Sans des chiffres.
Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais enfin, en tout cas, qu'est-ce qui fait que ça a changé à ce point entre, mettons, 1930 et 1960, par exemple ?
Ou 70 ? Entre 1930 et 1960, si vous regardez le lycée, je pense que la date charnière, c'est effectivement 1924, parce que c'est l'alignement des programmes... grosso modo, puisque finalement, l'accès au bac est devenu dominant. Moi, il me semble que c'est quand même après la Seconde Guerre mondiale, mais que le Front populaire a joué un rôle important. Mais je pense que ce qui s'est passé tout de même, c'est l'affirmation constitutionnelle de l'égalité des sexes. Mmh. Et du coup, qui s'est traduit par l'affirmation d'une égalité d'accès à tous les savoirs pour toutes et tous. Et ensuite, aussi, l'accès à la mixité. Je pense que l'accès à la mixité, c'est quand même très important, parce que là, c'est vraiment le droit d'accès à toutes les filières. Et les filles, en effet, en ont profité.
Rebecca Rogers, même question qu'à Nicole Mosconi.
Bah, je suis d'accord que cette question de la mixité est très importante. Je pense qu'il faut ajouter un autre facteur, qui est l'arrivée... l'essor continuel des femmes sur le marché du travail, et donc et notamment dans le secteur tertiaire où il faut l'éducation et ce que disait
en l'occurrence il n'y a pas simplement les écoles publiques où il y a les écoles type Pigier dans ces années à partir des années d'après la Première Guerre mondiale les écoles de secrétariat de dactylographie les professions libérales etc qui vont effectivement faire que on va faire entrer dans le marché du travail justement plus de filles qu'auparavant, peut-être, Rebecca Rogers.
Exactement. Et ce que disait Nicole Mosconi sur le rôle des écoles primaires supérieures ou les cours complémentaires, bon, les filles sont massivement présentes dans ces niveaux un peu intermédiaires.
Alors, il faut rappeler pour les auditeurs que les écoles primaires supérieures, c'était des écoles qui étaient intercalées, pourrait-on dire, entre l'école primaire et l'école secondaire, et donc avec un échelon intermédiaire à partir de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, qui permettait à des gens de poursuivre un peu après l'école primaire tout en n'intégrant pas forcément le secondaire.
Voilà, et qui avait une orientation souvent plus pratique, très axée dans l'offre du travail de la ville où étaient ces écoles primaires supérieures, sur lesquelles Claude Lelièvre a beaucoup travaillé aussi. Et l'une des choses qui est frappante, c'est par exemple le développement de tout ce qui est enseignement ménager. Donc on pourrait dire par certains côtés que l'enseignement ménager, c'est ce qu'il y a de plus classique, qui renvoie aux stéréotypes féminins. Mais on voit bien que dans une mouvement de professionnalisation de cet enseignement ménager, on voit beaucoup de jeunes filles qui auparavant ne poursuivaient pas des études, mais qui vont le faire, notamment en milieu rural. Il y a des écoles agricoles
des écoles ménagères, bien sûr.
Il y a un mouvement général qui accélère à partir de l'entre-deux-guerres, et puis là, avec un sérieux coup de pouce avec la loi Bertoin en 1959, où il faut rester à l'école jusqu'à 16 ans. Donc du coup, je pense que les filles ont vraiment beaucoup profité de ce mouvement d'ensemble.
Claude Lelièvre.
Je suis d'accord qu'il y a eu, c'est une réflexion générale, des changements dans les structures de l'emploi. qui ont joué, bien entendu, aussi comme appel, comme appel. Mais en même temps, nous avons le mouvement inverse, qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire qu'un mouvement qui vient des changements de l'école. On peut le voir de façon typique, justement, dans les professions juridiques, parce qu'on dit qu'il y a eu beaucoup plus d'avocats, mais les filles sont moins présentes chez les avocats, même s'il y a une montée encore en puissance, que chez les juges. Or, quand même, s'il y avait un métier qui était un métier d'homme au début du XXe siècle, c'est juge. Or, maintenant, la plupart des juges qui arrivent sur le marché des juges sont des femmes, parce qu'il y a un fameux concours, et que là, les femmes... un concours qui est très prisé. Et là, les femmes dominent largement les hommes. Donc, il y a des effets très compliqués, puisque d'une certaine manière, moi, je dis que s'il y a beaucoup de commissaires femmes, plus que d'agents de police en proportion, et s'il y a plus de juges que d'avocats, c'est un effet de l'école et de la façon dont les filles s'en sont emparées. Donc, c'est une question très, très compliquée.
Martine, oui, je voudrais revenir un petit peu sur le lien évoqué par Rebecca avec l'accès au travail, parce qu'en fait, c'est présent déjà ça bien avant la Révolution. Si dans les classes de filles à Paris, on forme tellement de couturières, de lingères, de blanchisseuses, de brodeuses, de dentelières, c'est qu'il y a un marché parisien
de la brodeuse et de la dentelière,
du luxe, de la mode, du textile, qui a absolument besoin d'ouvrières. Donc, effectivement, les promoteurs des institutions disent on les met en état de gagner honnêtement leur vie dans des métiers qui se pratiquent à l'abri d'une boutique ou d'un atelier et pas dans la rue, c'est certain, mais on en a besoin, effectivement, pour éviter d'importer des dentelles de Hollande ou d'ailleurs.
Séverine. Et du coup, est-ce qu'on a justement une étude un peu des catégories sociales, parce que qui doit être mouvante, c'est-à-dire, est-ce que ce sont les filles de couturières qui elles-mêmes vont avoir accès à l'école, les filles de la petite bourgeoisie, ou plutôt les filles de fonctionnaires, enfin, au début du XXe siècle, enfin, je pense tous ces cadres de la fonction publique qui vont envoyer leurs filles à l'école et faire des hautes études à l'université, hein, par contre, je pense à un niveau supérieur. Est-ce que ça, on
mesure... Dès le 18e, c'est extrêmement...
Parce que les femmes travaillent, ça, c'est pas nouveau, on le sait.
Non, elles ont toujours travaillé. Chacun a son école, en fait. Hein.
Chacun a son école.
Dans les petites écoles charitables, on va avoir des enfants d'ouvriers, de compagnons. Dans les petites écoles payantes, on va avoir des enfants de maîtres marchands ou de maîtres artisans. Et puis après, la bourgeoisie va être dans les pensionnats.
Nicole Mosconi.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que c'est très juste. Il faut vraiment voir la structure sociale pour comprendre un petit peu où sont les femmes, où sont les hommes. Parce que, c'est vrai qu'il y a une poussée extraordinaire qui était signalée là dans tous les métiers cadres, enfin les métiers hautement diplômés. Bien que du côté des ingénieurs, enfin, c'est encore en pointillé. Enfin, 30%, c'est pas encore énorme. Mais il faut remarquer aussi que, justement, le tertiaire s'est développé avec une certaine exigence de diplôme moyen, mais aussi des salaires faibles. Et c'est la raison pour laquelle ça s'est féminisé très fortement. Plus exactement, l'appel... a été vers les femmes pour pouvoir payer moins.
Qu'est-ce qui expliquerait, d'une certaine façon, que tout cet enseignement induit sur les valeurs qu'on a voulu enseigner à ces jeunes filles, etc., ait pu disparaître aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, Nicole Mosconi, en tant que sociologue et spécialiste de sciences de l'éducation, que aujourd'hui, eh bien, ça a disparu, ces idées reçues sur la bonne ménagère, la bonne tenue du foyer, l'idée de la mère qui doit bien s'occuper de ses enfants. Est-ce que ça serait disparu de cet enseignement ou ça serait encore dans une sorte d'inconscient collectif assez présent?
J'ai le sentiment que, à la fois, c'est assez présent dans le conscient collectif, mais pas présent... dans le système scolaire lui-même, sous cette forme, la forme d'un enseignement, parce que tant que les lycées étaient filles-garçons séparés, chez les filles, il y avait toujours de la couture, de l'enseignement ménager, etc. Et là, c'était très symbolique. Hein, c'est les fameux travaux à l'aiguille du 19e siècle qui se sont poursuivis. Et il y avait une injonction Les femmes devaient, certes, peut-être travailler, mais en même temps, surtout, ne pas négliger leur famille. Or, ça, c'est quelque chose qui, dans l'inconscient collectif, est toujours présent.
Mmh. Est-ce que vous disiez, par exemple, je crois que vous citez dans votre livre, est-ce que déjà au 19e siècle, est-ce qu'on peut être une grande mathématicienne et une bonne mère de famille ? Mmh. C'est non, de manière catégorique, au 19e.
Tout à fait.
Mais
ce n'est
pas tout à fait oui, aujourd'hui, au 21e
siècle. Même si Claude Lelièvre veut nous faire croire le contraire. Hein, Claude Lelièvre.
Non, mais c'est toujours cette histoire de complémentarité des
sexes. Le rusé Claude Lelièvre veut nous faire croire. Allez-y, Claude Lelièvre.
Non, parce que en arrière-fond de tout ça, on n'en a jamais discuté, mais il y a l'idée de nature.
Oui.
Oui.
Et elle est toujours là.
Ouais. Elle est toujours là.
Elle est toujours là.
Une nature féminine.
Et de la nature féminine. Et je ne voudrais pas
les
engager
un autre
débat sur la question du genre, de la théorie des genres, etc. Mais tout ça est lié. Donc, les questions se déplacent. Par exemple, elles se déplacent sur le plan politique. Moi, je suis remarqué... On est dans la fabrique de l'histoire. Il y a quelque chose quand même que je voudrais dire.
Allez-y.
C'est que j'ai analysé les manuels d'histoire du primaire du XXe siècle. Eh bien, dans les manuels d'histoire du primaire du XXe siècle, qui sont faits par des agrégés d'histoire en général, avec quelquefois accompagnés IEN, il est remarquable qu'il faut attendre 1985, après injonction du ministère, pour qu'on dise... les femmes ont eu le droit de vote à la Libération. Ce n'est pas dans les manuels.
Ah bon ?
Il faut attendre, alors qu'il y avait injonction du ministère, je termine sur la fabrique de l'histoire, il faut attendre la fin des années 90 pour qu'on ne dise plus qu'en 1848, il y a eu création du suffrage universel, alors que c'était une injonction du ministère depuis 1985. Donc, il y a encore du boulot.
Rebecca Rogers, pour conclure sur ce point ou sur d'autres points.
C'est vrai qu'il y a du travail à faire comprendre le fait que les femmes ont eu une histoire différente et peut-être renvoyées vers ce beau livre qui a été publié par l'Association pour promouvoir l'histoire des femmes et du genre, Mnémosyne. La place des femmes dans l'histoire.
Ouais. Un livre d'ailleurs pour la classe en particulier, pour aider à préparer des cours de façon différente.
Voilà, pour une histoire mixte, c'est le sous-titre, et je pense pour des auditeurs qui sont intéressés pour cette question, c'est un formidable outil pour
Absolument.
Comprendre cette différence.
On en avait parlé ici même, je crois que c'était avec Françoise Thébault à l'époque. Merci en tous les cas, Rebecca Rogers, vous êtes co-auteur d'ailleurs avec Françoise Thébault de La Fabrique des filles, l'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule. On peut évidemment toujours trouver votre livre sur la Légion d'honneur. Martine Sonnet, on peut lire votre livre, c'est au CERF, l'éducation des filles au temps des Lumières, votre thèse justement, et puis de vous, Nicole Mosconi, on conseille Femmes et Savoirs, la société, l'école et la division sexuelle des savoirs, c'était chez l'Armatan. L'histoire des femmes publiques, Françoise et Claude Lelièvre, c'est au PUF, ainsi que auparavant, il y avait l'histoire de la scolarisation des filles. Merci encore. On peut lire votre blog, c'est Claude Lelièvre sur Mediapart, et puis on peut vous suivre, Martine Sonnet, sur votre blog. Comment il s'appelle votre livre ? L'employé aux écritures. Et eux ?
Et
l'employé aux écritures. Merci encore à toutes et à tous. Termine avec une autre compositrice qu'on adore et personnellement que j'adore ici, ainsi que Séverine Yatar, Carla Blé, c'était la bande originale de Mortelle Randonnée, le grand film de Claude Miller en 1983. Notons également, puisque vous avez parlé de l'éducation nouvelle dans votre émission documentaire avec Séverine Cassar, Séverine Yatar, mardi dernier avec le documentaire sur Célestin Freinet, qu'il y aura, j'ai appris ça ce matin, un colloque, c'est en février, le 14 février, donc qui se tient sur l'éducation nationale au risque de l'éducation nouvelle. Ça va vous intéresser, Claude Lelièvre, évidemment, quels ont été les rapports entre l'éducation nationale et cette éducation nouvelle ?
Mmh.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marie-Bona Bolivier et Aurélie Marcet. Ariane Hervé était à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Demain, eh bien, vendredi, nous aurons le plaisir de recevoir en particulier un historien de l'Algérie et de la guerre d'Algérie, Benjamin Stora.